France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de l'horizon cette semaine et aujourd'hui des usages politiques de cette expression. Vision, projet, sens de l'histoire. L'horizon suggère une direction imposée, mais pas complètement subie. Au-delà de nous et des aléas de la politique, il y aurait une flèche partant du passé, nous traversant et montrant vers où l'histoire tend. Tout au loin, nous la verrions se perdre dans l'horizon, figure d'un avenir de l'avenir, au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Mais à quoi sert donc d'évoquer l'horizon en politique ? L'enjeu est-il plutôt de dégager avec force l'enjeu du futur ? Est-ce comme enjeu d'affirmer que nous avons quand même une prise sur ce qui arrivera ultimement, que nous devrions le voir un peu malgré tout et mettre nos efforts dans cette direction ? L'horizon politique, c'est en effet souvent ce qui permet d'affirmer qu'on a une vision, mot si courtisé lui aussi, surtout en ce moment où on ne voit pas grand-chose. La vision, c'est comme l'assurance qu'au-delà des événements malheureux, qui sont souvent craints dans les périodes de brouillard épais, il y a quelque chose en quoi nous pouvons espérer, pour parler comme le philosophe du XVIIIe siècle Emmanuel Kant. Un ailleurs, situé par-delà nos actions, mais un peu aidé par celles-ci. Et oui, l'horizon politique dit volontiers et tout à la fois la non-maîtrise, et la maîtrise partielle, en cela rassurant malgré son mystère. Bonjour Amaena Guénio.
Bonjour.
Vous avez publié cette année aux éditions du CNRS un ouvrage issu de votre thèse de doctorat en philosophie. Il s'intitule « La société des projets ». Bonjour Jacob Rogozinski.
Bonjour.
Professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg, vous connaissez très bien l'œuvre d'Emmanuel Kant, sa réflexion sur l'histoire et sur l'horizon de celle-ci, même si les mots de Kant sont plutôt projet et espoir. Vous connaissez très bien aussi la pensée de Jacques Derrida au XXe siècle, qui a développé l'idée de messianicité, dont il assurait qu'elle n'avait plus rien de religieux, à la différence du mot messianisme. Vous nous expliquerez. Et bonjour Jean-Philippe Millet.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes professeur de philosophie en Cagne au lycée Henri IV à Paris. Vous avez beaucoup exploré dans votre thèse de doctorat, en particulier la philosophie de Martin Heidegger. Pour ce penseur du XXe siècle, l'horizon est-il bouché par la victoire tous azimuts de la technique qu'il détestait, ou bien non ? Et vous, Jean-Philippe Millet, qu'en pensez-vous ? Vous nous direz. Quelques extraits sonores pour commencer qui nous montrent certains paradoxes dans l'usage politique du mot « horizon ». Voici à propos du climat.
La diapo suivante, s'il vous plaît.
Ouais. Quand c'est mauve, et c'est des impacts qui nous concernent déjà. Et orange, c'est plutôt à l'horizon 2100-2150.
Et en termes de température, les projections que l'on a, par exemple, dans 25 ans, à horizon 2050.
Il s'agit d'horizon climatique.
Du changement climatique à un horizon 2050 qui sont absolument effrayants.
Je vous le rappelle, moins 55% à horizon 2030 et la neutralité carbone à horizon 2050.
Projection climatique à l'horizon 2050.
À l'échéance 2000, environ 95% de la surface départementale était en excédence sensible. À l'horizon 2050, cette proportion s'est réduite à 15% du territoire.
Un ensemble de petits extraits montés par notre réalisateur Nicolas Berger. Et voici à présent Édouard Philippe en 2022 créant son parti Horizon.
Le 9 octobre 2021, au Havre, nous avons créé Horizon. Un nouveau parti politique.
D'abord, nous aimons la politique. Non, d'abord, nous aimons notre pays. Nous aimons ses fulgurances, nous aimons ses églises, ses paysages, sa géographie, son histoire, nous aimons ses heures lumineuses, nous connaissons ses heures sombres et nous ne les masquons pas. Mais nous ne voyons rien dans l'histoire de notre pays qui ne nous permette pas de viser le meilleur, de viser le grand et la grandeur.
Et c'est pour ça que nous aimons la politique, parce que la politique, c'est dire où on pense que le pays doit aller.
Au fond, l'objectif d'Horizon, c'est quoi ? C'est de construire une stratégie, parce que je suis convaincu que quand on veut rendre un pays plus prospère, plus confiant, plus puissant, il faut se fixer une stratégie.
Je ne suis pas sûre de comprendre. l'horizon, c'est se fixer une stratégie. Est-ce que l'horizon, ce n'est pas au-delà de la stratégie? Est-ce que le mot stratégie n'est pas contradictoire avec l'emploi du mot horizon? Qu'en pensez-vous, Amaena Guéniaud?
Alors, merci beaucoup pour ce double montage. Je voudrais d'abord rebondir sur ce montage lié à l'écologie, puisqu'il s'agit bien évidemment de réfléchir dans un contexte dans lequel l'Holocène s'achevant, nous n'avons plus les mêmes horizons que les civilisations humaines qui nous ont précédés. Et il y a bien une restriction des possibilités de projection, d'action, et l'horizon se ferme d'une certaine manière, puisque les conditions matérielles de la projection changent.
Je peux vous demander tout de même de définir, beaucoup de gens le savent, mais c'est un mot néanmoins nouveau, le mot Holocène, et surtout quelle périodisation vous adoptez?
Bien sûr. Alors l'Holocène désigne une époque géologique qui a commencé il y a 12 000 ans et qui se caractérise par un climat relativement tempéré. Et je dis bien qu'il a abrité l'ensemble des civilisations humaines depuis l'invention de l'écriture. Et donc nous changeons d'époque géologique, ce qui implique évidemment une transformation radicale des horizons de l'action et de la projection humaine.
Ah, vous aussi vous dites les horizons de l'action. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que l'horizon de l'action, c'est un abus de langage?
Alors, pour rebondir sur cette question d'horizon et de stratégie, je pense qu'en effet, il y a une sorte d'abus, puisque l'horizon désigne par définition une perspective qui est en partie imposée, alors que la stratégie est censée être l'art de la maîtrise des outils que déploie le militaire, par exemple. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la notion d'horizon d'action? On peut le dire d'une certaine manière, puisque on le verra tout à l'heure avec Hannah Arendt, il y a dans l'idée d'action une sorte d'indétermination, alors que l'horizon détermine certaines possibilités d'action.
Donc, et en même temps, il y a quelque chose d'un peu troublant, enfin, compte tenu aussi de notre premier épisode hier sur cette notion d'horizon, on a vu, Jacob Rogozinski, que l'horizon, c'est l'infini, c'est aussi l'indéterminé, et ce n'est pas justement ce qui nous détermine. Si on accentue cet aspect, et si néanmoins, notamment dans l'usage du mot stratégie pour parler d'action, et même dans l'usage des mots plan, voire projet, nous y reviendrons, on pense quand même un peu maîtriser l'histoire, enfin l'histoire qu'on est en train de faire. Est-ce que vraiment horizon, quelle qu'en soit l'acception, est un bon mot pour les acteurs politiques?
Évidemment non. Je veux dire, clairement là on a affaire à une dégradation d'un mot, même d'un concept si on veut, supposer qu'il y a un concept clair d'horizon, mais bon, il y a une dégradation dans l'usage politique courant de ce concept-là. Sur deux points, bon, le point que vous avez déjà souligné, à savoir que lorsqu'on parle de stratégie, on parle d'une maîtrise consciente de ce qui va arriver. Bon, un général qui sans stratégie, qui laisse advenir l'événement, n'est pas sans doute pas un très bon général, enfin, ça se peut discuter. Ici, bon, voilà, créer un parti politique appelé Horizon, ça implique déjà que l'horizon ne signifie pas un horizon. Parce que l'horizon comme tel, c'est une limite, mais une limite qui recule sans cesse à mesure qu'on avance vers elle. Donc c'est lié à l'idée de progression, et c'est aussi à l'idée de quelque chose qui se dérobe, quelque chose qui fuit, que justement on ne peut pas maîtriser. Bon, alors le second point, ça c'est encore plus grossier, je trouve, lorsqu'on dit à l'horizon 2030, il fera tant de degrés, etc.
Donc c'est pas du tout l'infini, là. C'est
oui, alors là, le mot horizon signifie simplement à la date 2. Voilà, c'est une manière vaguement éphémique, vaguement poétisée de dire à la date de 2030 ou à la fin du siècle. Donc là, on n'a plus du tout affaire à un horizon avec cette dimension d'illimitation et de dérobement. Je veux dire, clairement, l'horizon, on ne l'atteint jamais par définition. Donc c'est une limite infranchissable.
Le problème, peut-être, c'est que les mots sur l'indétermination ont mauvaise presse. Le mot utopie, par exemple, qui a été traité avec beaucoup de sérieux par des grands auteurs. Adorno, par exemple, mais bien d'autres. On a parlé de Saint-Simon la semaine dernière, au XIXe siècle. Il y a toute une pensée de l'utopie qui n'est pas... C'est pas un gros mot, même si Marx et Engels, et surtout Engels, ne l'aimaient pas beaucoup. Il y a une dimension utopique chez Marx. Et à l'inverse, les mots plan et projet peuvent sembler plus concrets, mais ils sont aussi dévalués, parce qu'on en a fait tellement. Donc, en fait, il y a un piège. Et donc, on a ce mot horizon qu'on fait jouer à la fois comme dans le sens d'utopie, au bon sens du terme, et dans le sens de plan-projet.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est donc l'usage, je trouve, dégradé hein, du terme horizon, vers introduire une sorte d'une connotation d'indétermination, d'illimitation, quelque chose d'un peu poétique, alors que lorsqu'on dit plan, programme, je crois que c'est le terme programme là qui s'impose, ou projet, Bon, projet lui-même est quelque chose d'un peu plus complexe. Hein. Comme Amène Aguignou l'a montré dans son livre, il y a de la surprise dans le projet. Vous l'avez rappelé dans le livre. Alors quand on dit programme, bon, un programme c'est fait pour être appliqué. Bon, un plan aussi. Alors l'horizon vient là introduire quelque chose d'un peu flou, d'un peu indéterminé, mais c'est un mésusage du mot. Bon, vous avez évoqué l'utopie. Là, je relisais récemment un très beau livre de Miguel Bensour qui a consacré une grande partie de sa vie à une réflexion sur l'utopie, sur la conjonction possible entre démocratie et utopie. Il a écrit un très beau petit livre sur l'utopie de Thomas More à Walter Benjamin. Il faudra aussi évoquer Benjamin à côté d'Adorno. Benjamin qui lisait Fourier, qui avait une certaine fascination pour l'utopie, ce qu'on appelle le socialisme utopique. Il y voyait une manière de réinjecter quelque chose d'autre dans la conception déterministe, naïvement progressiste du mouvement ouvrier de son temps. Bon, alors au début, j'étais très touché parce que Bensour évoque Hetty Hillsum, cette jeune juive hollandaise qui est morte à Auschwitz. C'est dans son journal qui est magnifique. Elle parle, alors qu'elle est internée dans un camp, elle parle de l'élargissement possible de l'horizon. Et donc, l'idée d'Abensour, c'est que l'utopie introduit un élargissement possible de l'horizon. Mais l'utopie entendue d'une certaine manière. C'est-à-dire, si on pense l'utopie comme un plan qu'il faudrait réaliser, le modèle d'une société parfaite, alors, bon, on détruit cette dimension d'horizon de l'utopie. Donc, il faudrait essayer de penser autrement l'utopie. Quelque chose qui pourrait, bon, rouvrir l'indétermination de l'avenir. Et ce qui est aussi bien l'indétermination de l'action, au sens d'Anna Arendt, même si Arendt ne parle jamais d'utopie. Donc, il faudrait défendre le mot horizon contre sa dégradation politico-médiatique actuelle. Et il faudrait aussi peut-être réinjecter de l'utopie en l'articulant avec l'horizon. Ce n'est pas évident.
Merci beaucoup, vous êtes très clair et je pense que la pensée de Miguel Abensour, enfin, vous venez de l'évoquer avec beaucoup de chaleur et c'est vrai qu'on a besoin aussi de penser ailleurs dans la vie politique contemporaine, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, peut-être que cet épisode ne tombe pas très mal compte tenu de l'actualité où, pour le coup, vous en serez sans doute d'accord, Jean-Philippe Millet, l'idée même de l'avenir, tout simplement, du demain, est extrêmement incertaine, en France comme ailleurs. Est-ce que néanmoins, vous jugez, puisque c'est un de vos concepts, que nous devons forger quelque chose comme une idée de l'enfuturation? Je vous cite, c'est un mot que vous employez, je ne sais pas dans quelle mesure il est redevable à Heidegger, vous nous le direz, peut-être pas. Et est-ce que lorsque vous employez ce terme, vous avez en tête quelque chose comme l'horizon?
Oui. Ce mot, il vient de... Est-ce que vous permettez que juste une remarque?
Je permets, bien sûr.
Parce que je vais enchaîner sur la question, justement, de cette enfuturation. Le vocabulaire, le terme d'horizon, la rhétorique de l'horizon en politique, en fait, ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler, par exemple, que un homme d'État qui s'appelait Jacques Delors avait fondé un club au début des années 60 qui s'appelait Horizon 60? Et Jacques Delors était une personnalité importante de la planification à cette époque. Donc il y a de toute façon un lien entre horizon et planification, c'était le temps de l'ardente obligation du plan, et si quelque chose s'est bien dégradé, parce qu'il y a peut-être plus d'un mode de dégradation de l'horizon, et si quelque chose s'est dégradé, c'est peut-être une certaine, sinon espérance, du moins une crédibilité de la planification, et donc une crédibilité de la capacité de l'action politique à ordonner dans le temps un certain nombre d'actions pour essayer de produire quelques effets attendus. Bon, c'est la première remarque. Et de ce point de vue-là, l'épuisement de la signification de ce mot « horizon » apparaît bien à travers la déclaration d'Édouard Philippe, puisqu'on y trouve une inversion que je trouve extraordinaire entre la stratégie et l'horizon. « Horizon » est dédié à une stratégie, alors qu'une stratégie suppose un horizon de temps. Donc on a une inversion complète, qui est extraordinaire. Et qui montre assez le degré, je ne veux pas être désobligeant, mais dans une phase politique qui est celle que nous vivons, le degré de confusion mentale et intellectuelle, de panique intellectuelle où nous nous trouvons en ce moment.
Est-ce que vous diriez la même chose du mot vision ? Souvent on entend, mais c'est le problème des politiques, du personnel politique, c'est qu'il n'y a pas de vision, personne n'a de vision. Est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est bien de dire ça ? C'est juste, ça dit quelque chose ?
Moi j'ai tendance à penser que la déploration de la vision est le fait de ceux qui n'en ont pas. Quand on a une vision, on la propose. Mais le tintamarre sur « il n'y a pas de vision, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas d'horizon » fait des caractéristiques de ce que j'aurais envie d'appeler le nihilisme contemporain, parce que, pour rejoindre ce que vient de dire Amaïna Guéniaud et aussi Jacob Rogozinski, je crois effectivement qu'on ne peut pas, pour ma part, penser l'action politique sans la projeter sous un horizon de temps. Mais, et c'est la deuxième remarque pour aller en direction de ce que vous dites sur l'avenir, y a-t-il un avenir ? Nous avons bien du mal à le déterminer. J'aurais presque envie de dire tant mieux. Pour l'instant, j'ai l'impression aux États-Unis que M. Trump le détermine un petit peu à sa façon. Et je le trouve un petit peu trop surdéterminé et un peu trop lourdement déterminé cet avenir pour l'instant. Alors ce que je voudrais simplement rappeler, suggérer déjà, c'est qu'un horizon, c'est un horizon de possibilités. La notion de possibilité est très compliquée à travailler. S'il y a un horizon, on ne peut pas n'importe quoi. Mais s'il y a un horizon, il y a toujours plus d'une possibilité.
Mais l'horizon, quand vous l'évoquez, c'est quelque chose qu'on décide ou qu'on ne décide pas ?
L'horizon, c'est quelque chose qui ne se conçoit pas s'il n'y a pas quelque chose comme un élan qui vient de nous et une projection. Mais nous ne pourrions pas nous projeter si un horizon ne se proposait. Et des horizons se
proposent... Quelque chose de subi ? Quelque chose qui ne vient pas de nous, alors, que l'on voit un peu, et à partir de quoi nous pouvons réfléchir à ce que nous pouvons faire.
Oui, quelque chose qui relève et de l'actif et du passif. Parce que la passivité, c'est une notion très intéressante, la passivité. La passivité n'est pas une impuissance. Il faut pouvoir être passif. Un vivant qui n'est pas capable de passivité disparaît. Il faut pouvoir, donc, c'est pas tout d'être passif, c'est d'être passible. Pour faire écho à une grande pensée d'Henri Maldinet, c'est être passible. Et si nous sommes passibles, alors nous sommes d'avance élancés vers l'action. Juste un mot, je dis j'ai quelque chose à faire. D'abord, j'aurais pas quelque chose à faire si d'une manière ou d'une autre quelque chose ne se présentait dont la responsabilité m'incombe. Et dès que j'ai quelque chose à faire, je suis renvoyé de geste en geste à travers aussi des réseaux d'outils et un futur c'est déjà d'avance projeté et prédessiné.
Et alors, qu'est-ce que c'est l'enfuturation ?
Eh bien, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire...
Oui.
C'est ça. On peut juste lire le... il y a quelques vers que j'ai trouvés il y a pas très très longtemps, d'ailleurs, Pier Paolo Pasolini, Les cendres de Gramsci. On est aussi dans quelque chose, quelque part, donc entre aussi, peut-être pas très loin, certainement très près de Marx, peut-être pas très loin d'Ernst Bloch, puisque vous parliez...
Et surtout près de l'Italie,
de l'utopie, près de l'Italie aussi. Voici, alors je le donne en français, hein, mais je précise quand même que s'enfuturer, c'est en futura, le temps qui s'enfuture, pardon pour l'italien, je suis pas italianisant, la nature vous donne, et la nature, je fais des petites coupures en fonction des vers, vous exprime dans le cœur que vous étourdissez. Et c'est là que le temps qui s'enfuture égal à soi, vous transporte avec lui dans l'obscure monotonie qui renouvelle les vies. Bon. Eh bien, cette enfuturation, c'est l'existence même. C'est nous-mêmes en tant que nous existons.
Alors pourquoi faut-il le dire comment dire, est-ce qu'il y a une part un tout petit peu volontaire dans votre usage du mot enfuturation ? Un peu, ce sera ma question à Maïna Guéniaud, il faut que nous soyons dans le projet. Vous parlez même à Maïna Guéniaud d'un droit au projet. Donc, est-ce que vous, quand vous employez le mot d'enfuturation, Jean-Philippe Millet, vous entendez un peu une injonction ou c'est juste descriptif ? C'est-à-dire, de toute façon, on est dans une enfuturation.
C'est descriptif et ça ne l'est pas seulement. C'est à la fois descriptif et prescriptif. C'est là où nous n'existons pas à la fois sans unir en nous un pouvoir, un vouloir et un savoir. Et encore une fois, nous ne sommes ni actif en tant que sujet de la maîtrise, ni passif en tant que subissant des événements ou ce qu'on appelle parfois étourdiment des déterminismes, cette explication, ce terme donnant lieu à des usages aussi étourdis que celui d'horizon, encore plus peut-être, nous sommes embarqués. Nous sommes embarqués, mais nous sommes embarqués aussi avec notre responsabilité. Et il nous appartient constamment de, là peut-être pas très loin de Merleau-Ponty, de reprendre nos possibles, de les ressaisir, et pas très loin de Derrida non plus, de sélectionner nos héritages.
Amaïna Guignot, droit au projet, importance de nous remettre dans des projets. Vous n'êtes pas très loin de ce point de vue-là d'une rhétorique de la vision, nous manquons de vision, il faudrait une nouvelle vision. Alors après tout ce qui vient d'être dit, comment défendez-vous cet aspect prescriptif sur lequel vous insistez dans votre livre ?
Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut distinguer ce que j'appelle le droit au projet et toute cette rhétorique de la vision et du projet, d'ailleurs, qui se déploie dans la société contemporaine, puisque ce que je montre, c'est que l'inflation du discours et des pratiques du projet, notamment depuis les années 80 avec le management par projet, les projets politiques, on se souvient avant Édouard Philippe d'Emmanuel Macron, avec C'est notre projet en 2017, toute cette inflation-là entraîne paradoxalement ce que j'appelle une déprojection, c'est-à-dire une perte de capacité et de désir de se projeter, c'est-à-dire de poursuivre des fins qui sont désirables à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et c'est pourquoi j'appelle dans la deuxième partie de mon livre à renouer avec une projection qui soit une projection authentique, et celle-ci est défendue comme un droit fondamental. Et
un droit ou un devoir ?
Un droit. Alors, je vais d'abord un droit. Pourquoi ? Parce que je pense que l'existence humaine ne peut, et l'existence en général, ne peut pas s'analyser seulement en termes de besoins. Et typiquement, penser l'ensemble des actions politiques en termes de nécessité, il faut pouvoir se nourrir, se soigner, etc., me semble insuffisant. Pourquoi ? Nous ne sommes pas juste des êtres qui ont besoin de survivre. Nous avons besoin, comme le montre Simone de Beauvoir, que je cite en exergue de mon livre, de pouvoir dépasser cette existence qui est strictement biologique. Alors, ce que je montre aussi, contrairement aux existentialistes, c'est qu'il y a déjà chez l'animal une forme de projection, et donc ce n'est pas l'apanage de l'humanité. Les êtres animaux aussi se projettent en fonction de valeurs. Et donc tout ça pour dire que nous avons besoin, pour penser un droit à l'existence humaine dans toute sa richesse, de penser ce droit à la projection comme droit à poser des fins qui ne sont pas prédéterminées par autrui et qui sont désirables, qui portent un élan vers l'avenir.
Et qui empêche ce droit d'être concret et bien présent ? Qui empêche, puisque vous dites qu'il faudrait que ce droit soit mieux défendu, qui l'en empêche ?
Oui. Alors, en fait, ce que j'analyse dans la première partie de mon livre, c'est qu'il y a des structures institutionnelles qui entraînent une déprojection, et ça me semble très important de le montrer, parce que sinon, nous risquons de faire de la déprojection une affaire strictement individuelle, dans laquelle les sujets déprojetés seraient finalement des sujets malades ou impuissants, incapables de s'adapter à un monde et donc de faire preuve de leur puissance de projection. J'ai en ligne de mire, évidemment, tous les discours sur les grands entrepreneurs qui réussissent, contrairement à toutes les petites mains qui seraient condamnées à une forme de déprojection par une forme d'impuissance physique. Et donc, ce que je montre, c'est qu'il y a des structures du travail qui entraînent la forme de déprojection, et j'en identifie deux. Les projets que j'appelle les projets marchandage et les projets que j'appelle les projets emploi. Les projets marchandage sont caractérisés par une dépendance extrême, puisque, par exemple, quand on est auto-entrepreneur, c'est pas vrai qu'on se projette de manière libre. On est dépendant de certaines plateformes, par exemple. Et le projet emploi est caractérisé par une subordination, même s'il y a eu une conquête de l'autonomie au sein de l'emploi. Subordination qui fait que même si on peut avoir des marges de manœuvre qui nous permettent d'influencer certaines décisions à notre échelle, eh bien le projet global, qui est le projet de l'entreprise et qui est un projet capitaliste, est un projet qu'on ne décide pas. Et donc il y a une obstruction.
Donc ce n'est pas vraiment un projet au sens positif du mot que vous souhaitez au contraire réhabiliter. Ce sont plutôt ces projets emploi et marchandises ou marchandages sont de votre point de vue, des projets produisant de la déprojection généralisée, c'est ça ?
Exactement, ce sont des simulacres de projets, comme je les appelle.
Entendu. Ouais. Jacob Robozinski, bien évidemment, vous réagissez comme vous voulez à tout ce qui vient d'être dit, mais je n'oublie pas votre très grande connaissance d'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, qui emploie le mot projet. Il y a un projet de paix perpétuelle chez Emmanuel Kant, et par ailleurs, on a coutume, alors peut-être est-ce rapide, mais ça ne me paraît pas totalement faux, de dire que le siècle des Lumières a favorisé l'idée de progrès. Et c'est un mot qui n'a pas encore été employé, en tout cas analysé dans notre conversation. Est-ce que vous pensez que tout cela a encore du sens pour nous aujourd'hui, ou très franchement, nous ne sommes plus très nombreux à penser, à croire au progrès?
Oui, vous avez tout à fait raison de mettre en avant le mot progrès. C'est effectivement le mot qui manquait dans la discussion d'aujourd'hui. Bah, je veux dire que c'est un peu paradoxal, mais parce qu'il Kant emploie très peu le mot horizon et dans sa logique, dans un sens logique, mais il me semble que Kant est au fond le penseur moderne ou un des grands penseurs modernes de l'horizon, même s'il emploie peu. Alors pourquoi cela? Parce que bon, revenons à l'idée d'horizon. Enfin, comme nous savons tous, au départ, c'était l'idée de limite, de borne. Horos, quoi, c'est la borne. Et puis bon, comme l'a montré Michel Collot, que vous avez
hier dans le premier épisode,
que vous avez invité. Bon, à partir de 17e, 18e siècle, il y a une sorte d'élargissement étonnant de la notion d'horizon, peut-être aussi lié au fait. Le passage du monde clos à l'univers infini, les grandes découvertes, etc., etc. Puis l'horizon devient synonyme d'illimitation. Ce qui est quand même un peu paradoxal, puisque l'horizon et l'infini, et ça, bon, Céline Fécheux l'avait rappelé dans ses livres, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'on ne peut pas se représenter l'infini, alors que l'horizon, on le voit dans les tableaux, on le voit quand on se promène, etc.
Peut-être et voilà, une illusion d'optique, hein.
Oui, certainement.
C'en est une.
Donc l'horizon devient synonyme d'infini, d'ouverture à l'infini. Or, Kant est le penseur du progrès à l'infini.
Oui.
Bon, notamment, bon, essentiellement sur le plan pratique.
Donc son projet n'a rien à programme.
En fait, quand on dit projet de paix perpétuelle, je crois, sauf erreur en allemand, c'est Zur Ewige Frieden. Donc le mot projet n'apparaît pas, mais en fait, il pourrait y être. Parce que toute la pensée pratique de Kant est orientée vers cette idée que nous devons, c'est un devoir, avancer à l'infini, hein, vers des idéaux régulateurs que nous n'atteindrons jamais par définition, mais qui orientent notre action. Bon, les fameux postulats à la raison pratique, il faut donc parier en quelque sorte pour l'immortalité de l'âme, pour la liberté, pour l'existence de Dieu, etc. Mais le souverain bien. Mais le souverain bien nous échappera toujours et pourtant nous orientons vers lui. Et donc c'est un des grands penseurs du progressisme des temps modernes. Des temps modernes qui sont d'ailleurs, bon, Habermas avait magnifiquement défini les temps modernes en disant c'est la seule époque qui se vit en fonction de l'avenir. Mais quel avenir? L'avenir d'une progression à l'infini. Bon, Hegel avait
par des sujets. Habermas, c'est comme Hegel, insiste beaucoup sur le quand même un pouvoir des sujets humains, sinon de tout faire, mais de participer pleinement, notamment à la rationalité des choses qui peuvent progresser dans l'histoire. Alors justement, je vous propose qu'on écoute un texte de Kant, alors non pas du projet de paix perpétuelle, mais de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, qui est un texte de 1784. Là, vous allez entendre la 8e proposition, et vous allez surtout entendre à quel point, si le sujet peut espérer, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose comme un projet dans la nature. Écoutons.
On peut considérer l'histoire de l'espèce humaine dans son ensemble comme l'accomplissement d'un plan caché de la nature pour produire une constitution politique parfaite à l'intérieur et dans ce but également parfaite à l'extérieur. Une telle constitution réalisant l'unique situation dans laquelle la nature peut développer complètement dans l'humanité toutes ses dispositions. Il s'agit seulement de savoir si l'expérience nous dévoile quelque chose d'un semblable processus du dessein de la nature, car ce cycle semble exiger tellement de temps pour s'achever qu'à partir d'une petite partie déjà parcourue par l'humanité à cet égard, il semble tout aussi impossible de déterminer avec certitude la forme de sa trajectoire. En attendant, la nature humaine implique que l'on ne soit pas indifférent à l'égard de la période la plus éloignée que notre espèce doit atteindre, pourvu seulement qu'elle puisse être attendue avec certitude. Nous pouvons d'autant moins être indifférents que nous pourrions, par une préparation rationnelle, accélérer la venue de cet instant si heureux pour nos descendants.
Alors qu'Emmanuel Kant me pardonne, je vais poser à Jacob Rogozinski, ici présent, qui connaît bien son œuvre, question pleine de scepticisme. C'est-à-dire, est-ce que vraiment aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire, nous pouvons croire en un plan caché de la nature vers le souverain bien ?
Oui, Kant n'est pas Condorcet, il n'est pas un penseur naïf du progrès, et il ne dit pas que c'est un progrès absolument inévitable. Hein, ça reste une possibilité fondamentale. C'est-à-dire, on ne pourrait pas agir si on ne se posait pas l'horizon du souverain bien, donc d'un progrès, etc. Sinon, dit-il, sinon on tomberait dans le désespoir.
Et ce n'est pas non plus celui qui lui succédera, Hegel, qui dira que... Il y a des choses négatives dans l'histoire, mais elles se dépassent dialectiquement, etc.
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non plus, parce que pour Hegel, le négatif doit se relever ou se dépasser dialectiquement, et donc l'esprit avance. Il a chaussé les bottes de cette lieu, il avance. Kant, me semble, on peut lire Kant de différentes façons, mais encore une fois, je pense que c'est pas un progressiste naïf, et pour une raison toute simple, c'est que dans ses derniers textes, il a mis en avant l'idée de mal radical. Il y a un mal radical, ce qui veut dire simplement, non pas un mal absolu ou démoniaque, on n'est pas des démon, il a peut-être tort, mais en tout cas c'est ce qu'il posait, c'est un mal radical, c'est-à-dire enraciné dans le caractère de notre espèce. Et donc ce mal radical s'oppose bien sûr à l'avancée vers le bien, il s'oppose aussi au progrès de l'humanité. Donc peut-être que dans la dernière partie de son œuvre, qui est contemporaine aussi de la Révolution française, que Kant soutenait avec enthousiasme, il a écrit là-dessus, mais il a aussi vu la terreur qui lui paraît quelque chose de très problématique politiquement et éthiquement. Donc il introduit quelque chose de nouveau, à savoir cette idée de mal radical qui pourrait s'opposer au progrès vers le bien. Donc je pense que si on lit attentivement Kant, le progrès n'est pas garanti.
Alors voilà. Peut-être faudrait-il relativiser, si on adopte votre lecture, d'autres textes de Kant, y compris dans l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, où il dit, il y a quand même des moteurs, ça annonce vraiment Hegel, la dialectique, comme l'insociable sociabilité. Nous sommes insociables, ça c'est le conflit, c'est le négatif aussi, la cruauté, le mal, il y a quelque chose autour du mal que nous faisons les uns aux autres. Mais il dit que paradoxalement, ça va produire dans l'histoire, dialectiquement, sommes-nous tentés de dire, de la résolution des conflits, nous avancerons. Et souvent on dit que voilà, Hegel est né de cette page de Kant. Oui. Mais vous qui accentuez plutôt les travaux sur le mal radical, vous relativiseriez cette page, par exemple ?
Quand même un peu. Kant parlait de ruse de la raison, Hegel parlait de ruse de la nature, Hegel parlait de ruse de la raison. C'est au fond toujours la même idée, c'est-à-dire que le mal sert au service du bien. Et donc finalement, on a un optimisme progressiste, nuancé, complexe, mais en même temps très puissant. Mais je pense que le dernier Kant, en insistant sur cette idée du mal radical, complique les choses. Il n'est pas certain du tout que l'homme puisse arriver à l'état, ce qu'il appelle l'état de nature éthique.
Et c'est heureux qu'il complique les choses, de votre point de vue. C'est juste. C'est heureux. C'est heureux au sens où c'est juste.
Disons, ça rend les choses moins naïves. Je veux dire, à l'époque où nous vivons, après les terreurs du XXe siècle et celles du XXIe qui s'annoncent, je pense qu'on peut plus adhérer à une vision simple et naïve de l'histoire dans laquelle l'humanité progresserait avec des hauts et des bas, des reculs, etc., mais progresserait vers le bien. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, aussi pour une raison toute simple. Nous savons maintenant, depuis Hiroshima, que comme disait Sartre, à la prochaine, la Terre peut sauter. Et nous savons maintenant, et là je rejoins Amena Gagnaud, nous savons que nous sommes en train de détruire la possibilité d'habiter la Terre. Donc l'horizon d'Apocalypse qui a traversé toute l'histoire de l'Occident en tout cas, et pas seulement de l'Occident, il devient concret
peut-être
désormais.
Peut-être pas Apocalypse qui suppose une révélation derrière, oui, mais juste là, une catastrophe comme disait Adorno.
Voilà,
et derrière, on n'est pas du tout sûr que ce soit formidable.
Tout
et
à fait,
qu'il n'y ait pas de rédemption, pas de messianisme, pas certainement en tout cas.
Et là, on retrouverait Benjamin, à savoir l'ange de l'histoire qui est poussé vers le futur, tout en regardant le passé, dit Benjamin, le passé où il ne voit qu'une unique catastrophe, avec des morts entassées, des désastres. Mais il est poussé à contre-courant, il est poussé vers l'avenir par un vent irrésistible. Et ce vent, dit Benjamin, c'est le vent du progrès. Et là, on retrouve la question du progrès.
Qui l'empêche de sauver, puisqu'il n'arrive pas, du coup, à prendre les choses comme il le souhaiterait dans ses ailes. Donc c'est vraiment le progrès est devenu quelque chose d'empêchant. Empêchant les bonnes choses, empêchant les petits saluts ordinaires.
Oui,
c'est terrible, cette
Et empêchant de rendre de rendre justice aux vaincus et aux morts. Et aussi faisant croire naïvement que les difficultés que nous rencontrons, nous arriverons à les surmonter parce que, bon, l'humanité progresse. Je crois que dans ce texte qui est testamentaire, parce que Benjamin écrit peu de temps avant de se
1940,
suicider.
1940, bon, oui. Ouais, sur l'histoire.
Justement, il allait se suicider parce qu'il pensait qu'on allait le livrer à la Gestapo. Bon, il a en tête le mouvement ouvrier allemand, les sociodémocrates et sans doute aussi les communistes. C'est-à-dire des gens qui disent, bon, au fond, Hitler, c'est un épiphénomène. Il arrivera au pouvoir, il s'effondrera. Le progrès de l'histoire va dépasser tout ça. Et pour Benjamin, c'est vraiment le danger fondamental. Il dit clairement, on ne peut pas lutter lucidement contre le fascisme si on croit au progrès nécessaire inévitable. Parce que, bon, ça restera un épiphénomène, un parti ou un mouvement très réactionnaire, je ne donnerai pas de nom ici, mais on a tous des choses en tête, peut arriver au pouvoir et s'imposer. La démocratie peut s'autodétruire. Maintenant, on commence à avoir ça en tête. Il y a une grande naïveté chez toute une série de penseurs politiques. Là, voilà, je pense maintenant à Marcel Gauchet, qui est un auteur important, intéressant, mais pour lui, l'ère des totalitarismes est close. C'en est fini, dit-il. Il a écrit, bon, Le Nœud démocratique, son dernier livre, c'est sans doute pas son meilleur. Il dit non, mais c'est fini, il y aura plus de religion politique, il y aura plus de totalitarisme, la crise actuelle, c'est une crise de croissance. Donc on revient à une espèce d'optimisme naïf qui n'était pas celui de Kant. Un optimisme très 18e siècle. Un peu celui de Condorcet, peut-être celui d'Auguste Comte au siècle suivant. L'idée qu'on avance de toute manière. Voilà. L'horizon est un horizon de bonheur, de progrès, c'est le souverain bien, et on y arrivera quoi qu'il arrive, même s'il y a des crises de croissance. Non. Maintenant, nous savons que la démocratie peut s'autodétruire de manière radicale et que nous pouvons détruire totalement la Terre. Donc là, la situation est beaucoup plus tragique, me semble-t-il, que beaucoup de gens le pensent.
Nous parlons de l'horizon cette semaine dans Avec Philosophie. C'est notre sujet très riche, ce qui nous amène à parler de peinture, d'esthétique, mais aussi de linguistique. Nous parlerons des horizons de sens. Et ce matin, nous parlons des usages politiques du mot horizon, ce qui nous amène avec Amaina Guéniaud, Jacob Rogozinski et Jean-Philippe Millet à réfléchir à tout un tas de mots, plan, programme, projet et progrès. Alors justement, tout ce que vient de dire Jacob Rogozinski sur le rapport que nous pouvons encore avoir aujourd'hui à la notion de progrès si chère au XVIIIe siècle, qu'en pensez-vous, Jean-Philippe Millet ?
Une crise de croissance, pour enchaîner sur ce que Jacob vient de dire, en référence à Marcel Gauchet. À la limite, le terme de crise de croissance ne me gêne pas. Quand quelque chose croît, on a aussi quelque chose comme un horizon d'attente. Tout ce qui croît, croît dans un certain horizon d'une manière ou d'une autre, même à la limite, si on a la limite de la hauteur des branches supérieures d'un arbre, par exemple. On a toujours des horizons. Ce qui se passe avec une crise de croissance, c'est un horizon qui s'obture, d'une part, et une crise de croissance, ça peut être extrêmement violent. À la limite, je ne pense pas qu'on puisse se rassurer avec cette notion de crise de croissance. Plus généralement, je suis en plein accord avec ce que Jacob Rogozinski vient de dire sur les l'abord naïf de la notion de progrès. Peut-on évoquer certaines projections des astrophysiciens qui calculent les quelques milliards d'années qu'il faudra au système solaire pour disparaître? Bon. Donc, l'histoire n'est peut-être pas tant orientée sur l'horizon d'un accomplissement définitif. On voudrait bien savoir ce que ça veut dire pour l'être humain. Ce sont plutôt des horizons qui se succèdent et pas dans un sens prédéterminé. Et ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de donner sens à ceux de notre présent, de voir qu'est-ce que le mot d'horizon pourrait bien vouloir dire. Est-ce qu'il y a peut-être une structure d'horizon ? Et quel est le rapport entre temps et horizon ? Là, il y aurait effectivement quelque chose qui serait à creuser.
Peut-être que la notion de croissance que vous évoquez, tous les deux, nous amènerait à faire une remarque. Nous sommes dans un moment en philosophie où le pragmatisme est très à la mode, en particulier la pensée de John Dewey, qui est très riche, auteur américain du XXe siècle. Et c'est vrai que Dewey parle beaucoup de croissance. Mais je sens, et je ne vous cache pas que je trouve ça assez juste de votre part, qu'il ne faudrait peut-être pas non plus abuser de ce mot, comme on a abusé du mot progrès. Vous êtes d'accord,
Jean-Claude? Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et vous, Amaena Guéniaud, qui est une philosophe jeune, qui est tout à fait dans... Enfin, vous savez très bien à quel point le pragmatisme, aujourd'hui, a du succès. Est-ce que la touche un peu sombre, la notion de catastrophe qu'a évoqué Jacob Rogozinski en évoquant aussi Benjamin, est-ce que tout cela vous paraît un peu trop lourd, devant malgré tout être dépassé si nous souhaitons, pour votre génération, avancer? En plus, il y a un gros programme, si je puis dire, qui est quand même essayer de réparer notre planète. Ou bien, au contraire, cette touche mélancolique vous paraît-elle essentielle?
Merci pour cette question. Je pense que il y a une sorte de méfiance inhérente à ma génération autour de la notion de progrès, mais aussi parce que cette notion a été dévoyée. Je pense, par exemple, c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant, à Tony Robbins, une sorte de grand gourou américain qui vend une sorte de progrès perpétuel aux grands dirigeants et autres qu'il coach, en disant voilà, prochaine session, vous allez encore progresser, etc. Et ce progrès infini est tout sauf un progrès vers le souverain bien. Il vend des formations de plus en plus chères et entraîne des gens dans des états psychiques et matériels complètement déplorables. Et cette logique, enfin, je prends les pratiques de ce monsieur comme une sorte de métaphore du fait que le progrès perpétuel peut devenir dans la société contemporaine tout sauf quelque chose qui mène au progrès. Et l'idée d'avoir un projet qui permettrait de faire tout le temps plus de projets, tout le temps plus de progrès, a quelque chose d'extrêmement angoissant, en plus d'avoir quelque chose de complètement destructeur pour la planète et pour les êtres humains, je pense. C'est pourquoi, dans ma thèse, je défends l'idée que les projets doivent aussi permettre de déployer une sphère des activités improjectives. J'appelle ainsi des activités qui sont à elles-mêmes leur propre fin, dans le sillage d'Aristote, la fête, la danse, le chant, la promenade. Mais tout ça, en fait, suppose des projets parce que ce n'est pas vrai que de manière spontanée un temps se libère pour ces activités-là. C'est si on arrive à organiser matériellement, politiquement la société pour déployer cette sphère-là, c'est le fruit de projets politiques qui permettent de les mettre en œuvre. Ce progrès n'est pas un progrès infini. Bien sûr que l'horizon s'éloigne toujours, mais il y a quand même l'idée d'une sorte de finalité, parce qu'un projet qui serait tout le temps le projet d'autre chose mène à une forme d'angoisse et surtout d'épuisement des ressources humaines et terrestres, environnementales.
La difficulté aussi, c'est que c'est évidemment présent dans votre livre, nous avons une tendance, je parle nous, c'est-à-dire tous ceux qui écrivaient des livres, qui utilisaient des concepts, la tendance est de dire faisons confiance à la démocratie pour retrouver le sens du projet qui ne doit pas être monopolisé par certains. Le problème, c'est que les démocraties nous montrent en ce moment que beaucoup de gens ont envie qu'il y ait des gens qui décident et qui décident fermement. Il y a une sorte d'envie d'autorité. Et ça, c'est un peu difficile à penser quand on est, comme vous tous, je pense, des grands démocrates.
Tout à fait. C'est ce qui me permet d'ailleurs de rebondir sur la question du pragmatisme et de Dewey. Il montre très bien que cette envie d'autorité naît aussi quand il y a une perte de l'habitude démocratique. Et cette perte de l'habitude démocratique vient de très loin. Enfin, quand on est à l'école et qu'on élit des délégués qui n'ont aucun pouvoir, ça crée une sorte d'effet contre-productif qui est une sorte de méfiance générale vis-à-vis des institutions démocratiques. Et c'est vrai que dans mon livre, la démocratie apparaît régulièrement comme une sorte de de baguette magique d'une certaine manière. Je dis, voilà, enfin, c'est difficile de déterminer ce qui est absolument bien, c'est difficile de déterminer ce qui est le moins destructeur possible pour l'environnement et pour les êtres humains. Donc mieux vaut passer par un arbitrage démocratique. Et je ne précise pas, contrairement à ce que fait Jeanne Dhuy, toutes les institutions qui permettent de favoriser la démocratie. Pourquoi insister sur cette notion de démocratie? Parce que l'alternative, c'est évidemment de penser à un tyran éclairé. Certains se sont réappropriés de manière positive l'idée d'une sorte de tyran vert qui nous guiderait vers l'écologie.
Vous pensez peut-être à Hans Jonas, non?
Par exemple, on peut...
dans son principe responsabilité, qui rêve un peu au moins d'une aristocratie éclairée?
Tout à fait. On peut avoir cette dimension-là, mais ce que je fais... dans mon livre, c'est à partir de Rousseau notamment, mais une réflexion sur le fait que, certes, ça pourrait être bien, mais on n'est pas sûr absolument de la vertu de ce dirigeant et surtout de sa capacité à ne pas se tromper, en fait. Et donc, il vaut mieux avoir un système qui est peut-être un peu plus inefficace, mais qui, au moins, crée des garde-fous. Et je pense, c'est une analogie... un peu étrange, mais de même que quand on confie ses enfants, on préfère qu'il y ait un collectif dans lequel il puisse y avoir des garde-fous parce que justement les gens
tout
sont
le
là
voit
pour
tout
ce
le
contrôle.
Monde.
Voilà. De même, on peut préférer avoir cette sorte de contrôle social collectif, mais qui n'est pas seulement une question de contrôle. C'est-à-dire que je pense, et on sera tous d'accord là-dessus, j'imagine, que dans la coopération intellectuelle pour déterminer les fins qui méritent d'être poursuivies, il y a quelque chose d'autre qui émerge par rapport à ce qu'un sujet individuel peut définir. Et ce qui m'emmène d'ailleurs à une question qui me semble très importante dans mon livre, les institutions qui sont quand même assez cadrées, que je propose d'un droit à la projection, laissent une grande marge à l'indétermination, puisqu'il s'agit vraiment de penser la manière dont les sujets individuels et collectifs, donc les organisations, les communautés politiques, peuvent recouvrer une capacité à inventer aussi des institutions nouvelles et donc aussi des institutions qui seraient complètement différentes de celles que moi je propose. Donc il s'agit vraiment d'ouvrir cette capacité démocratique à définir le sujet qu'on veut être à l'avenir.
Oui, c'est sûr, et vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes tout à fait d'accord avec, par exemple, les analyses de Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne, pour laquelle c'est ça, l'action, il y a démocratique qui est quand même la quintessence de la politique, la véritable politique est démocratique, il y a des acteurs qui interagissent, mais il n'y a pas d'auteur qui ait fabriqué l'ensemble du projet vers lequel nous irions. Il y a des processus indéterminés. Alors, ce n'est pas Arendt qui sera notre point final, ce sera plutôt une discussion autour de certains mots de Jacques Derrida. Vous êtes plusieurs ici à connaître cette œuvre très bien. D'ailleurs, ça tombe bien parce que vous allez m'expliquer des choses que je ne comprends pas bien. Voici une archive de Jacques Derrida sur France Culture en 1995.
Il y en a eu un très grand nombre de déclarations des droits de l'homme. Il y a un progrès. On a inclus, on a intégré dans cette déclaration des droits toutes sortes de droits nouveaux. Droit au travail, puis ensuite droit de l'enfant, droit de la femme, etc., etc. Ça veut dire que le droit est en mouvement et ce mouvement suppose qu'il n'est pas égal à lui-même. Et cette inégalité à soi du droit qui le tient en haleine, qui tient son histoire en mouvement, c'est ce que je propose d'appeler la justice dans ce contexte-là. Non seulement tous les concepts de l'histoire du droit sont révisables, déconstructibles, si vous voulez, critiquables et déconstructibles, mais l'horizon, sans horizon de cette histoire du droit, c'est ce que je propose d'appeler justice.
Jacob Rogozinski, c'est un geste assez classique chez Derrida. D'ailleurs, il dit qu'il pense qu'il y a quelque chose comme une messianicité, mais sans messianisme. Et là, on l'entend dire que c'est un horizon sans horizon. C'est une des difficultés, je vous cache pas, que j'ai avec Derrida, c'est que j'ai l'impression que le langage suggère qu'il n'y a pas de contradiction, mais qu'en fait il y en a une, quoi. Donc je vous laisse m'expliquer ce que veut dire, par exemple, dans cette intervention, Derrida, par la notion d'horizon sans horizon.
Oui, alors ça, Derrida, il aimait beaucoup ces formules-là peut-être emprunté à Blanchot, enfin peu importe. Bon, c'est là, il y a un texte dans lequel il parle d'attente sans horizon, d'attente. Bon, il y a mourir sans mourir, etc. C'est un peu un tic. Je suis d'accord avec vous, finalement. Bon, c'est aussi génial qu'il fût. Il y a parfois des tics, des facilités rhétoriques. Mais je pense que là, il veut dire quelque chose de très important quand même. Parce que là, j'ai trouvé cette citation très étonnante dans Du droit à la philosophie, où il dit abruptement, et là, c'est... Bon, là, il n'y a pas de subtilité rhétorique, il dit « la philosophie n'a pas d'horizon ». Bon, carrément. Ça, c'est extrêmement violent, extrêmement brutal. Hein. Alors, il veut dire sans doute par là qu'elle n'a pas de fin ultime, qu'on n'a pas à attendre comme Hegel un savoir absolu, ou bon, une vision du troisième genre, comme une intuition de troisième genre, ou une intuition bergsonienne. C'est l'idée d'indétermination et d'ouverture. Et il y a chez Derrida une pensée à la démocratie. Hein, très clairement, bon, il dit que la déconstruction a rapport à ce qu'il appelle la démocratie à venir. Donc une démocratie qui ne se rabat pas sur un régime existant, mais qui est dans l'ouverture, l'indétermination, mais quand même la démocratie. Et il n'était pas très nombreux, les penseurs français de cette époque-là, qui à se référer positivement à la démocratie. Ni Badiou, ni Foucault, ni
Oui, Deleuze, mais Jacques Rancière, Miguel Abensourde.
Absolument.
Il y avait quand même Claude Lefort. Enfin, il y avait du monde, voilà, quand même. Hein.
Tout à fait. Enfin, moi, je me sens très proche de la pensée de Lefort. Et donc, Derrida était un peu dans ce courant-là. Des gens qui acceptaient l'idée de démocratie, mais sous un mode d'indétermination. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit que la philosophie n'a pas d'horizon? Ben, il m'a semblé que très souvent, il emploie le terme d'horizon d'attente. C'est-à-dire, il réduit l'horizon à ce qu'on appelle l'horizon d'attente, un terme qui traîne chez Gadamer, chez Koselleck, chez des auteurs allemands, et qui renvoie l'idée d'une pré-compréhension ou d'une prédétermination, d'une relation à l'avenir qui serait en fin de compte calculable ou anticipable. Et, il oppose à cela l'idée d'événement. Et pour lui, bon, le messianique, c'est effectivement l'irruption inattendue de l'événement, la surprise totale. Donc quelque chose qui ne peut pas se laisser calculer ou anticiper. Donc c'est pas de l'ordre du projet au sens où on l'entend couramment. Mais ce n'est pas votre sens à vous, puisque chez vous, il y a de la surprise et de l'invention dans le projet.
Mais est-ce que c'est la passivité au sens très éclairant qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Philippe Millet?
Ça, c'est un peu un problème aussi pour moi. Je pense qu'il y a chez Lévinas, chez Derrida, une certaine fascination pour la passivité qui peut poser problème, qui empêche de penser l'horizon de l'action, l'action comme horizon, comme c'est le cas chez Hannah Arendt, ou comme c'est le cas chez Ricoeur et d'autres personnes. Là, il y a une limite aussi des penseurs de cette époque-là. Mais je pense que ce qu'il veut avant tout critiquer, c'est l'idée du projet comme initiative d'un sujet. Hein, pour lui, l'événement arrive, il nous tombe dessus, et il est donc messianique dans la mesure où il implique une ouverture à la justice. Donc c'est pas un horizon totalement indéterminé, un événement totalement déterminé, c'est le messianique comme ouverture à la justice.
C'est Yoko Ono que vous entendez, 1973, Have You Seen a Horizon Lately? Merci beaucoup à Maïna Guénio, Jacob Rogozinski, Jean-Philippe Millet. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse aux intentions, bonnes et mauvaises. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi y a-t-il diverses sortes d'intentions ? Dans le langage ordinaire, dans la vie ordinaire, l'intention est d'abord une notion de philosophie pratique, de philosophie morale, de philosophie pratique au sens où la pratique est justement le domaine de l'action libre des êtres humains, pas simplement des événements pragmatiques avec leurs conséquences bonnes ou mauvaises, mais de la pratique au sens où elle est l'action régie par la liberté des êtres humains, par la capacité d'être la cause de nos actions, par nos représentations, comme dit Kant. Si je me représente le fait de lever la main et que la main se lève, alors je peux dire que cette représentation a été la cause de cette action et que c'est là l'intention de lever la main qui en est en quelque sorte la responsable. L'idée d'intention est donc d'abord venue de la philosophie pratique. Mais même là, elle comporte des degrés. Bien sûr, il y a ce modèle rationnel de l'intention qui entièrement explicite et antérieure à l'acte et qui en assume toutes les conséquences. Et peut-être est-ce un modèle d'abord juridique et en tout cas qui régit les relations a posteriori entre les êtres humains. Nous devons bien faire remonter les actions à des intentions et les juger comme nous le pouvons pour le meilleur ou pour le pire. Mais il y a aussi des intentions confuses, des intentions complexes. L'acte libre a plusieurs intentions. Il devra mesurer après coup, assumer ses conséquences. Bergson a montré que l'intention pouvait rassembler toute la vie, la durée d'un sujet. Les actes profonds ont des intentions profondes, parfois régies par des idées absolues de justice ou d'amour, ou de haine d'ailleurs, parfois au contraire par des motifs extrêmement complexes. Qu'ai-je voulu faire ? Je ne le saurais peut-être qu'après coup. Mais en philosophie, l'idée d'intention a aussi un angle depuis en tout cas le XXe siècle du côté théorique. Les phénoménologues appellent intention, intentionnalité, la relation de notre esprit non seulement à ses actions, mais au monde en général. Ainsi, c'est mon esprit est tout entier relation à la chose. Il n'y a pas de conscience sans conscience de quelque chose, disait Husserl, et le modèle en est bien la conscience perceptive, la conscience rationnelle aussi, cet objet qui se détache clairement sur le fond du non-sens. Mais les philosophes, là aussi, les phénoménologues comme Sartre ou Merleau-Ponty, ont cherché d'autres degrés d'intentionnalité. Il y a ce modèle de l'intention qui se tourne comme l'attention elle-même vers un objet qui se découpe de manière de plus en plus précise et riche sous notre regard. Et puis il y a tout cet embrouillamini d'intentionnalité pré-réflexive, comme dit Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception. Mon corps se dirige au jugé dans le monde. Il y a de l'intentionnalité partout où il y a de l'esprit, de la subjectivité et de la vie, mais elle n'est pas toujours claire et explicite. Ainsi, il y a divers degrés, diverses formes d'intention et d'attention, d'intentionnalité, de rapport au monde, à nos actions et à leurs effets, car par l'intention, ne l'oublions jamais, non seulement nous nous rapportons au monde théoriquement, mais nous le transformons. Nous sommes la source d'événements qui transforment le monde. Il faut donc penser le critère de l'intention, qui est un critère absolu, et ses différents degrés, mais peut-être surtout aussi ses modalités, car en effet, il y a de bonnes et de mauvaises intentions, et les intentions ne sont jamais neutres.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Éric Perruchot-Triboulet. Elle a été préparée en particulier par Nassim El-Kabli et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.